Radio Okapi. Grande interview.
Une nouvelle proposition de loi électorale est déjà sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle proposition de loi vient compléter celle déposée depuis 2019 par le député Christophe Lutundula, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. L'examen de ces deux propositions de loi ainsi que du rapport de la CENI s'avère prioritaire au cours de cette session parlementaire de septembre, bien qu'essentiellement budgétaire. C'est ce que pense le groupe des 13 personnalités politiques et parlementaires de la RDC qui plaide pour des réformes profondes du système électoral congolais. Pour eux, il est plus que jamais opportun de procéder à des réformes profondes afin d'assurer la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques en décembre 2023. Pour en parler, Grande Interview reçoit dans ce numéro le porte-parole du G13, Délice Sanga. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindango. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à Grande Interview. Avec notre invité Délice Sanga, nous parlons dans ce numéro de la nécessité de réformer le système électoral congolais. Délice Sanga, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des 13 parlementaires ayant formulé des propositions sur la réforme du système électoral congolais. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche?
L'exigence et la responsabilité. Savez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, à compter de la date du 15 septembre, date de la rentrée parlementaire, jusqu'à la date constitutionnelle de la convocation de l'élection pour 2023, il nous restait exactement 1111 jours. Et si vous prenez cette date du 15 par rapport à la date du 31 décembre 2023, jour anniversaire où nous sommes tous allés voter pour les nouvelles institutions, il nous restait 1201 jours. Et comme nous ne sommes plus le 15 septembre, vous pouvez décompter le nombre de jours qui nous restent. Vous voyez bien qu'il y a une urgence et qu'il y a de la responsabilité si nous voulons avoir des élections en 2023. Et donc, il faut s'y prendre dès à présent.
Et quelle est l'opportunité aujourd'hui de réformer encore le système électoral congolais? Qu'est-ce que vous reprochez au système actuel?
Nous sommes allés aux élections à 3 reprises. Nous avons tiré les leçons de ces élections, et en particulier des dernières. Et nous avons estimé, pas que nous, mais l'ensemble de la société. Vous vous souviendrez qu'au mois de juillet et du mois d'août, tout le monde a été dans la rue exigeant les réformes avant de pouvoir enclencher le nouveau cycle électoral, parce qu'un certain nombre de griefs avaient été relevés contre la loi telle qu'elle a fonctionné. Je vous donne un exemple. Sur la question du seuil, qui a été une innovation introduite lors de la loi de 2017, aujourd'hui, tout le monde en a fait le bilan et je crois que le seuil fait consensus contre lui parce qu'il a été un instrument ayant servi à manipuler les résultats plus qu'à y introduire davantage de transparence. Et il n'a même pas permis, le seuil, de pouvoir constituer des agrégats beaucoup plus importants, et donc d'éliminer ce que l'on appelle les petits partis politiques des élections. Vous voyez, ça a été détourné de son but. L'élection des gouverneurs, l'élection des sénateurs, qui a été un marché où la surenchère a été au rendez-vous, surenchère des corruptions, de nos institutions, dévalorisant même le mandat de ceux qui en sont issus, scandalisant tous les camps politiques. Il fallait y apporter une réponse. Donc ce sont toutes ces questions que nous avons mises en examen et nous avons évalué les processus pour proposer les innovations qui sont dans la nouvelle loi en vue de baliser le chemin de 2023.
L'Assemblée nationale a déjà procédé à l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ne trouvez-vous pas que votre démarche intervient un peu en retard?
Notre démarche n'est pas dirigée contre les personnes. Notre démarche, elle est sur les principes. Notre démarche, elle est à l'écoute de notre peuple. On ne fait pas les lois pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale, on fait les lois pour notre peuple. Aujourd'hui, y compris dans les marches qui ont été organisées par ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, on a vu que tout le monde a exigé que nous puissions avoir des règles beaucoup plus transparentes et beaucoup plus claires. Dans toutes ces marches, nous avons vu que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile ont exigé des réformes préalablement à la mise en place des nouveaux animateurs au niveau de la CENI. Et je rappelle au demeurant que ça a toujours été la tradition dans ce pays qu'après un cycle électoral, on procède à l'évaluation de ce qui s'est passé, on réforme ce qui doit pouvoir être réformé et on procède à la mise en place de nouveaux animateurs. Ce qui est très étonnant, c'est de voir que le rapport de la CENI qui a été envoyé à l'Assemblée nationale n'a pas toujours été examiné et que d'autre part, la réforme sollicitée par les uns et les autres ne puisse pas faire l'objet d'examen aujourd'hui, notamment la proposition de loi qui a été faite par notre collègue Christophe Lutundula et qui est sur la table du bureau de l'Assemblée depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc tout ceci sont des écueils qu'aujourd'hui nous devons pouvoir corriger en vue d'ouvrir une voie beaucoup plus sereine pour la tenue des élections en 2023.
Ne craignez-vous pas qu'initier en ce jour des réformes profondes du système électoral congolais risque de retarder les élections prévues pour 2023 ?
Bien au contraire, c'est parce qu'on s'y prend dès aujourd'hui que les élections en 2023 se tiendront à l'heure et à date constitutionnelle. C'est parce que certains ne comprennent pas leurs responsabilités, voulant reporter ces réformes à plus tard, que les élections risquent de ne pas se tenir aux dates et heures constitutionnelles. Tous ceux qui sont dans ce pays, et c'est un appel que nous lançons à la fois à la société civile, aux politiques, aux institutions, que si nous voulons des élections en 2023, c'est maintenant et ce n'est pas demain qu'il faut faire ces réformes. C'est parce que nous les aurons faites aujourd'hui que demain, nous pouvons espérer les élections dans le délai. Tenez, quand vous êtes aujourd'hui, projetez-vous comme si nous étions en janvier 2015. Et voyez le temps qui s'est écoulé entre janvier 2015 jusqu'en 2018 pour tenir les élections. Si nous voulons éviter la catastrophe que nous avons connue en 2011, où une CENI a été déployée à quelques mois et a été obligée d'organiser les scrutins, ou en 2006, où dans le cadre de la prolongation de la transition, on a été obligé, quasi manu militari, d'aller aux élections. Si nous voulons éviter ces catastrophes, aujourd'hui, nous avons à la fois l'expérience et la connaissance du processus pour considérer qu'il faut, dès à présent et pas demain, faire ces réformes. Et donc, je suis plutôt inquiet de voir que certains responsables qui sont en charge de ces questions au niveau institutionnel ne prennent pas la mesure de cela et banalisent pour considérer que ces réformes ne sont pas prioritaires. Elles le sont et le peuple congolais sait qu'elles sont prioritaires et c'est pour ça que le peuple congolais a été très souvent ces derniers mois, ces derniers jours, sur la voie publique pour exiger ces réformes.
C'est peut-être parce que la question d'élection n'est pas encore d'actualité.
La question de l'élection doit être d'actualité en permanence. Pourquoi ? Parce que dans un pays qui est un état de droit, qui est un état démocratique, la question électorale se gère concomitamment à toutes les autres questions sociales. Ce n'est pas une question qui est mise en sourdine. Je ne comprends pas ceux de politique et parfois responsables à plus haut niveau qui ont tendance à considérer que la question électorale est une question que l'on met sous le boisseau parce qu'on parle du budget ou parce qu'on parle d'autres questions. C'est le monde à l'envers. La question électorale est une question permanente dans une société qui veut tenir l'horloge démocratique. Le temps de l'élection n'est pas un temps qui est décompté sur le temps de l'action gouvernementale. C'est un temps concomitant pour que l'horloge démocratique, justement, fonctionne en temps et en heure conformément à la Constitution. Il faut de la préparation, il faut de la programmation financière, il faut que les lois qui gouvernent cette matière puissent être mises à jour dans le délai afin d'éviter les catastrophes auxquelles nous avons toujours été confrontés et les contestations nombreuses qui émaillent souvent nos cycles électoraux.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro Délice Essanga, député national et membre du groupe des 13 parlementaires qui ont proposé des réformes du système électoral congolais. Alors, Monsieur Délice Sanga, vous avez introduit une proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale modifiant la loi électorale. En quoi cette proposition de loi est-elle différente de celle introduite en août 2019 par votre collègue Christophe Lutundula?
D'abord, il s'agit de deux matières différentes, même si elles sont complémentaires d'un point de vue pratique. Christophe Lutundula avait introduit la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La loi que nous venons d'introduire, c'est la loi qui porte l'organisation des élections, qui est la loi électorale qui précise les règles, les modes de scrutin, comment est-ce que les Congolais votent et comment est-ce qu'on garantit la transparence de ces scrutins. Au demeurant, je vous dirais que nous soutenons la proposition qui a été présentée par le collègue Lutundula et nous avons discuté avec beaucoup de partenaires de la société civile et du monde politique pour pouvoir identifier les types d'amendements qui peuvent être introduits dans le cadre de cette loi pour pouvoir en améliorer la présentation. Et je crois que aussi bien la loi de Lutundula qui a été présentée que cette loi d'ailleurs qu'il a co-signée avec les membres du G13 sont des initiatives intéressantes et nécessaires pour faire avancer le processus électoral. D'autres initiatives doivent venir pour compléter celle-ci.
Quelles sont les grandes réformes que vous proposez dans le cadre de ces textes que vous avez déposés à l'Assemblée nationale?
Bon, il y a plusieurs innovations. Je veux vous épargner de vous donner toutes, mais je vais donner quelques principales. La première, c'est que on supprime le seuil électoral parce que le seuil a aidé à manipuler les résultats électoraux. Et pour pouvoir lutter contre la multiplicité des listes, nous avons proposé le remplacement du seuil par un contrôle des conditions de recevabilité en exigeant qu'une liste pour être déposée à la députation nationale doit être présente dans au moins 60% de sièges en compétition sur 60% de sièges représentés. Deuxième innovation, elle porte sur l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du mode de scrutin majoritaire simple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des députés qui sont élus avec 300 voix, 500 voix, 1000 voix, là où il y a des personnalités, des personnes qui ont 10 000, 15 000 voix. Et dans certains coins, c'est même un motif d'instabilité, parce qu'ils ne comprennent pas que celui qui a été désigné avec 15 000 voix ne passe pas, au motif que le seuil n'a pas été rencontré, et sans que la CENI n'ait pu démontrer à qui que ce soit comment est-ce que le seuil a été rencontré. Donc il y a simplification du mode de scrutin pour un scrutin majoritaire. La troisième chose, c'est le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs. Nous n'avons pas voulu passer ces élections au suffrage universel direct. Nous avons proposé, par exemple, que le gouverneur soit élu au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les députés provinciaux qui indiquent au moment du dépôt de leur liste le ticket du candidat gouverneur et vice-gouverneur pour lequel leurs voix sont décomptées en cas de leur élection. Autrement dit, lorsque un député va aux élections, il va pouvoir indiquer déjà pour quel ticket de gouverneur, candidat gouverneur, il va voter. Pareil pour le sénateur, ce qui va annuler l'effet de la corruption et du marchandage de voix des députés et ce sera transparent. Celui qui va voter pour un député, il sait qu'en même temps qu'il vote pour ce député, si celui-ci passe, il est en train de voter également pour un candidat sénateur pour lequel la voix du député comptera si ce député est élu. Dans le cadre des élections sénatoriales, nous pensons que les sénateurs représentent leur province. Nous privilégions la diversité de la représentation et donc nous disons que il ne peut pas y avoir plus d'un sénateur par territoire ou par ville. Parce que dans certains coins, on a constaté que les quatre sénateurs provinciaux venaient d'un même territoire. Et ceci ne concourt pas à la représentativité de la province. Et donc, il n'y aura plus de sénateurs provenant d'un même territoire ou d'une même ville. Et de l'autre côté, il y a une interdiction formelle que l'on soit en même temps candidat député provincial et candidat député national. On pourra être candidat gouverneur et candidat député provincial. On pourra être candidat président de la République et candidat député national. Mais on ne pourra pas, aux élections d'un même degré, et pour les assemblées délibérantes, pouvoir concourir à deux élections. Parce que ce système a permis de faire naître le népotisme dans notre pays. De la même manière que nous avons interdit scrupuleusement que aucun candidat ne peut porter en suppléance un membre de la famille avec lequel il a de liens de parenté directs ou indirects, en ascendant ou descendant, jusqu'au deuxième degré inclus. Donc ceci évite d'avoir des gens qui se font remplacer par le neveu, par la cousine, par l'épouse, par la deuxième maîtresse, ainsi de suite. Ce système a trop joué contre la crédibilité même des institutions publiques. On a distingué dans la loi les inéligibilités temporaires des inéligibilités définitives. Quand quelqu'un a été condamné pour des crimes graves, comme les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, il y a une inéligibilité définitive. En ce qui concerne maintenant le régime du vote électronique, notre loi réglemente le vote électronique. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le recours, par exemple, à la machine à voter, qui soit une initiative unilatérale définie par la CNI, sans qu'il y ait des mécanismes à la fois de tests, de validation et des débats dans la société. Et donc il faut une loi d'homologation pour qu'un système électronique autre que manuel puisse entrer en vigueur. Et donc tous ces éléments ont concours à un mode de scrutin qui soit à la fois transparent, clair, libre et permette à ce que dans une ultime innovation, nous puissions avoir un système de gestion des résultats qui soit le plus tracé possible, le plus transparent, partant du bureau de vote, centre de compilation et un centre national de publication des résultats.
Et pensez-vous que la majorité au pouvoir ait réellement la volonté politique d'encourager de telles réformes ?
Je vais d'abord rappeler une chose, c'est que une loi électorale n'est jamais conçue dans l'intérêt d'un camp contre un autre. Elle n'est jamais conçue contre un camp ou pour un camp. La loi électorale est une loi d'arbitrage. Et nous avons dit, ces éléments résultent des consultations que nous avons faites, du consensus que nous sommes en train de constater, et nous pensons que les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, le dialogue doit continuer, la discussion doit continuer pour que ces d'accord ou ces principes que tout le monde défend aujourd'hui dans la société deviennent notre agenda commun, cet agenda citoyen auquel nous appelons notre peuple, nous appelons nos élus, nous appelons nos institutions. Faisons des bonnes lois qui soient à l'écoute de nos concitoyens. Les bonnes lois ne sont pas les lois qui sont faites dans l'intérêt d'un camp contre un autre. Et je forme toujours le vœu et je continue à nourrir l'optimisme sur le fait que par la discussion, par la découverte de nos propositions, beaucoup de nos collègues qui sont de la majorité vont y trouver à la fois la vertu et la solution à des multiples problèmes qui se posent. Parce que les problèmes qui se posent sur la question électorale ne sont pas différents de ceux que nous nous sommes posés ou de ceux que la société civile s'est également posé.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le député Deli Sesanga. Il est membre du groupe des 13 parlementaires qui ont initié des propositions des réformes du système électoral congolais. Alors, monsieur Deli Sesanga, vous avez déposé au chef de l'État toutes vos propositions sur les réformes du système électoral. Pensez-vous qu'il sera disposé à soutenir ou à accompagner votre démarche?
Notre démarche a visé toutes les institutions et tous les groupes politiques. Il y a des institutions qui ont accepté de pouvoir nous écouter. Il y a des groupes politiques qui ont accepté, d'autres qui ne l'ont pas fait. Et c'est leur liberté. Nous avions réservé au président la primeur de nos conclusions, mais que nous présentons aussi à tous les autres, qui nous avaient reçus parce qu'ils ont contribué à l'élaboration de ces propositions ou à ajuster notre cahier des charges. Et donc, que ce soit les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les membres du consortium de mission d'observation des élections en République démocratique du Congo, que je remercie au passage, nous allons remettre la copie de ce rapport afin qu'il soit au courant de la feuille de route que nous traçons et que nous voudrions discuter avec tous, parce que la discussion continue. Hier, on nous a fait le reproche d'être dans une démarche qui est extra-institutionnelle. Nous avions objecté pour dire que tout ceci atterrira dans les institutions. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir être rassuré, y compris ceux qui, hier, avaient des craintes par rapport à cette démarche, pour considérer que toutes les propositions sont maintenant sur la table. On peut en discuter, y compris pour ceux qui veulent qu'on en discute dans les institutions. Mais en discuter dans les institutions, pour nous, ne veut pas dire qu'on oublie le contexte social dans lequel nous sommes. On n'est pas là pour pouvoir faire n'importe quel arrangement qui va au détriment des attentes de notre peuple. Notre peuple attend de ces institutions, attend des prochaines élections, un plus grand engagement en termes de transparence, en termes de liberté, en termes de clarté des résultats. Et nous, comme représentants de ce peuple, les uns les autres, nous devons formuler des solutions par rapport à ça. Parce que si nous ne le faisons pas, le risque que nous courons, c'est de voir demain beaucoup de nos concitoyens se désaffecter de la politique et être dans l'abstention, ne pas aller voter. Moi, j'ai été aux vacances parlementaires au mois de mars, au mois de février dernier, et j'y étais encore lorsque la crise du coronavirus a démarré. La plupart de nos concitoyens se posaient la question de savoir s'il faut encore aller voter dans ce pays. Et donc, notre mission comme élus, c'est de leur donner les motifs d'espérer en disant: vous pouvez aller voter, nous avons compris votre message, les erreurs qui existaient, nous les avons corrigées. Et ça, ce message-là doit être porté par l'opposition, mais elle doit être portée également par la majorité. Il n'a pas de camp, il n'a pas de couleur. À l'image du G13 que vous avez vu, nous avons des personnalités issues de l'opposition, issues de la majorité et issues de la société civile.
Quelle chance accordez-vous à une telle démarche tout en ayant à l'esprit que le FCC, largement majoritaire au Parlement, n'est pas avec vous?
Je crois que le FCC n'est pas en dehors du temps ou en dehors du pays. Le FCC vit dans ce pays et j'ai vu le FCC dans la rue pour la première fois. Et je crois qu'ils ont entendu les messages de ceux qui marchaient avec eux, parce que moi j'ai vu à la télévision ce qu'ils disaient, ce qui était dans la marche. Ils attendaient des réformes. Et nous y sommes. On nous a dit, on veut des réformes dans les institutions. Nous les avons amenées. Mais maintenant, il faut plus se défiler. Personne ne va se défiler. Mais en même temps, le peuple congolais doit se mobiliser. Parce que cet agenda citoyen, auquel nous appelons tous, c'est un agenda commun pour le bien du peuple congolais. Le pays, ce n'est pas parce qu'il y a une majorité qu'on a vendu le pays au FCC. Non, le pays appartient à tous les Congolais. Et nous devons le discuter. Au sein du FCC, je sais qu'il y a des compatriotes qui ont la volonté que les choses changent. Et je vois les uns les autres nous appeler. Je vois les uns les autres se manifester sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire qu'ils sont d'accord avec telle ou telle autre proposition. Voyez par exemple, sur la question de la programmation financière, nous avons proposé la constitution d'un compte d'affectation spéciale dans le budget pour pouvoir assurer une meilleure mobilisation des ressources internes au profit du cycle électoral. Aujourd'hui, j'étais content de voir que le président du Sénat a repris à son compte cette belle proposition qui vient du G13. Donc, c'est pour vous dire que, y compris au sein de FCC, il y a des acteurs qui sont intéressés par la stabilité de ce pays, qui veulent que les choses tournent et qui vont s'engager pour pouvoir y aller. Mais vous savez, quelle que soit la démarche, nous ne sommes pas naïfs, nous ne croyons pas à l'unanimité. Nous pensons qu'il y aura une majorité d'idées sur la question électorale, comme cela a été le cas à une certaine époque. Il vous souviendra, quand il a été question ici d'examiner la loi électorale, aussi bien les députés de la majorité que de l'opposition, à l'époque, avaient rejeté le mode de scrutin amené alors par le gouvernement, qui était un gouvernement de la majorité, qui voulait ce système d'apparentement. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus pensent que, par exemple, le seuil électoral a été quelque chose de totalement diffus, pas transparent. Il n'y a aucun député qui sait pourquoi il est dans l'Assemblée. Parce que aucun député n'est capable de vous dire aujourd'hui comment est-ce que le seuil électoral a été atteint. Et vous croyez que ces députés-là pensent qu'il faut maintenir le seuil électoral? Non. Beaucoup pensent qu'il faut l'abandonner. Beaucoup pensent aussi que le mode de scrutin majoritaire est le plus adapté. Beaucoup pensent, et ils ont été victimes de l'élection au Sénat, où on a vu l'argent jouer à la place du respect du suffrage. J'ai vu même le premier d'entre nous, le président de la République, pour ne pas le citer, s'indigner de vote qui avait eu lieu au moment de l'élection des sénateurs et des gouverneurs. C'était une honte pour la République. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne veulent plus de ce népotisme qui s'installe où on voit sur une élection quelqu'un aligné coup sur coup, sa femme, son premier fils, son deuxième fils, et ainsi de suite, et voler d'une élection à l'autre et privant notre pays de cette représentativité nécessaire. Je crois que ce sont des questions d'intérêt général qui n'ont pas de couleur et pour lesquelles nous allons travailler, continuer à travailler auprès de nos collègues pour expliquer nos propositions.
Ne craignez-vous pas que votre démarche donne l'opportunité à la majorité au Parlement de tailler une prochaine loi électorale sur mesure, comme ce fut le cas avec le dernier processus électoral?
Écoutez, si on doit vivre avec des craintes, on n'agit plus. Moi, je suis un homme d'action, je reste optimiste. Et dans cette Assemblée nationale, nous avons passé des lois sans pour autant être de la majorité. Et je crois que sur certains principes, on peut faire concilier les vues et de la majorité et de l'opposition. Je reste optimiste de ce point de vue. Je vois aussi la situation de mon pays. La situation est critique. Je crois qu'il n'y a personne dans ce pays qui veut que nous puissions aller vers une catastrophe. Vous savez, un pays qui ne se reforme pas est un pays qui prépare des changements violents. Et le Congo a déjà payé un lourd tribut à ce type de changement que aujourd'hui, tous les responsables politiques, quel que soit leur camp, ne puissent pas se rendre à l'évidence, je dis bien l'évidence, qu'il y a une exigence absolue aujourd'hui d'avoir ces réformes faites dans le temps et procédant par la méthode consensuelle pour rassembler la nation et permettre à ce qu'en 2023, dans la paix et la sérénité, nous puissions aller vers les élections.
La toute dernière question, qu'adviendra-t-il donc si jamais toutes vos propositions n'étaient pas prises en compte par la majorité au Parlement?
Il ne s'agit pas que de nos propositions. Il s'agit ici d'un véritable agenda des citoyens congolais, du peuple congolais, dans sa diversité, qui s'exprime. Et c'est en cela qu'il ne faut pas se tromper de combat. L'enjeu, ce n'est pas le groupe de G13. Nous ne nous drapons pas dans notre dignité pour dire ce sont nos propositions. Nous n'avons été qu'un vecteur. Nous n'avons été que porteurs d'un certain nombre d'idées et d'attentes de notre peuple. Et nous allons mener ce combat dans le cadre de nos prérogatives. Et nous attendons que le peuple soutienne, que le peuple s'émobilise. Et j'ai vu et je suis content que la question électorale aujourd'hui fasse l'objet d'une très grande mobilisation de notre peuple, de la société civile, des partis politiques, des groupes politiques. C'est pour la première fois depuis très longtemps que l'on a vu dans la rue sur une question aussi bien la majorité, l'opposition, la société civile manifester. Et donc il y a de l'intérêt. Et cet intérêt doit être maintenu vif pour que la pression sur les institutions, sur les élus, puissent faire en sorte que au moment où ils vont prendre la décision, ils aient à l'esprit qu'ils sont en train de légiférer, non pas pour l'Assemblée nationale, mais qu'ils légifèrent pour le peuple congolais et la stabilité de notre pays, la République démocratique du Congo.
Délice Sanga, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi prend fin votre émission Grande Interview de séjour sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs de la fréquence de la paix, merci de rester à l'écoute de nos programmes. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.